Vous êtes bien sur Radio là. Pedro, bonjour.
Bonjour Lionel.
Tu vas bien aujourd'hui?
Très bien. Ça allait un peu mieux avant que tu arrives, mais ça va.
Bon, on a... Alors aujourd'hui, tu as choisi de nous présenter des histoires, des nouvelles,
Oui.
des nouvelles de Louis Pergaud,
Oui.
de Goupil à Margot, Histoire de bête, aux éditions Mercure de France, Paris. Voilà. Première question, Louis Pergaud, tu peux nous présenter?
Oui.
Alors, il a été, j'ai oublié
Eh oui, t'as
le
oublié de préciser.
prix Goncourt 1910,
10.
donc 7 ans après la création du prix Goncourt.
Bravo.
Merci.
Tu t'es renseigné.
Absolument.
Alors, Louis Pergaud, c'était un instituteur qui travaillait, qui était donc instituteur à l'époque où l'Église et l'école laïque étaient en guerre. C'était avant la loi de 1905 qui séparait l'enseignement de l'Église et de l'État.
D'accord.
Lui était instituteur dans les années 1900-1901. Fils instituteur lui-même. Et c'était un gars qui a beaucoup vécu à la campagne, qui a beaucoup fréquenté les animaux sauvages, et qui a beaucoup chassé et pêché, et ce qui a donné envie d'écrire sur ces animaux, parce qu'il trouvait que les fables de La Fontaine, c'était un peu...
Il
Un
s'est pas
peu,
inspiré. Il
c'était pas vraiment...
s'est pas inspiré de La Fontaine.
Non, il s'est pas inspiré de La Fontaine.
Ben,
Voilà.
pour être
Ce
sympa.
sont des histoires crues et réelles.
D'accord. Ben, écoute, on y
Oui,
va.
je peux aussi préciser que Louis Pergaud est décédé dans le cours de la Première Guerre mondiale. Il a été tué en 1915 dans un combat autour de Verdun. On n'a jamais retrouvé son corps.
Il était originaire de quelle région, tu sais
Il était dans la région de la Franche-Comté.
ça?
Il était né pas loin de Besançon. D'autres précisions?
Non, ça
Non,
va.
c'est
Bon.
bon, le personnage est bien
Les
présenté.
nouvelles sont bonnes.
Les nouvelles sont bonnes, j'ai pas lu le journal ce matin, mais je peux pas te dire.
Alors allons-y, non? Enfin vas-y, une fois t'avais peut-être dans tes notes, t'avais
Non,
envie de.
non, j'avais pas noté grand-chose. C'est De Goupil à Margot, c'est son premier roman. Il a décroché le prix Goncourt d'entrée. Je crois que.
Qui sont Goupil et Margot?
Et Goupil et Margot. Margot, c'est un corbeau. Non, c'est pas un corbeau, c'est une pie. Et je te le dirai tout à l'heure parce que. Et Goupil, c'est le renard.
D'accord. Et c'est
Voilà.
les personnages principaux de ces nouvelles
Ah,
ou?
il y a 14 histoires et 14 personnages
Personnages.
différents. Il y a une grenouille, il y a une pie, il y a le corbeau, il y a le renard, il y a la fouine, il y a tout un tas de personnages différents. Et ça raconte leurs aventures et leurs démêlés avec les chasseurs ou avec les animaux prédateurs. Ce sont des histoires assez dures. C'est pas les historiettes à la Fontaine, quoi.
Très
C'est
bien.
plus proche de la réalité de la vie de ces animaux-là que ne l'étaient les histoires de La Fontaine.
On y va?
Voilà, on y va. Pergaud est surtout connu pour un roman que tout le monde connaît qui s'appelle La guerre des boutons.
Ah oui.
Oui, c'est de lui.
D'accord.
C'est l'histoire de son enfance quand il était dans son village natal. Pas natal, non, c'est le deuxième village où il a habité parce que son père était instituteur, était changé souvent de poste. C'est le deuxième village où il habitait, c'était l'histoire de la guerre des boutons, c'est l'histoire de son village, le village d'à côté où il se battait, il se piquait les boutons. C'est du vécu.
D'accord.
Voilà. Et c'est dommage qu'on ne connaisse que la guerre des boutons. Donc, je vais te lire des extraits de ces nouvelles, parce que si on lit toutes les nouvelles, on en a pour l'après-midi. Et donc, je vais commencer par te lire la nouvelle L'horrible délivrance, qui parle de Fuseline la fouine. La ténèbre était opaque. Rien ne troublait le bourdonnement du dégel. Un soudain déclic de métal faucha comme un andain de silence et un hurlement qui ne tenait plus de la vie sembla jaillir du néant et déborder dans l'espace comme une cataracte d'horreur crevant les vannes de la nuit. La bête était prise. Née d'amour fugitive à l'avant-dernier printemps, Fuseline, la petite fouine à la robe gris-brun, au jabot de neige, était ce jour-là, comme à l'ordinaire, venue de la lisière du bois de hêtre et de charme, où, dans la fourche par le temps creusé d'un vieux poirier moussu, elle avait pris ses quartiers d'hiver. Depuis que la neige avait fait fuir au loin, en triangulaire caravane, les migrateurs ailés, elle avait vu ses ressources baisser rapidement et, pour apaiser sa soif inextinguible de sang, elle avait dû, comme ses sœurs en rapine, délaisser les taillis déserts et chercher vers le village la pâture de chaque jour. Elle y venait tous les soirs, plus prudente ou moins hardie que ses vieilles compagnes qui s'y étaient depuis longtemps arrangées des retraites dans les interstices caverneux des vieilles toitures des seuls. Les temps étaient lointains maintenant où, avec la complicité de la lune rousse, elle grimpait aux petits chênes pour y surprendre pendant leur sommeil les merles nouveaux, à nouveau arrivés sur leur couvée d'oisillons. Il ne restait plus au bois que quelques vieux sédentaires dont la méfiance jamais démentie défiait toute surprise. Encore un peu.
Oui.
Ouais. Par un trou de carreaux cassés, rustiquement rebouché de papier par la chatière d'une porte ou l'évidement d'un mur bas à l'endroit où posent les poutres, elle était parvenue certaines nuits à couler dans la grange d'un fermier son corps vermiforme et de là, tomba par les abat-foins dans leur atelier des vaches à pénétrer dans l'étable chaude où logeaient les poules. Alors, elle avait bondi légère sur le perchoir où elles s'alignaient, juchées sur leurs pattes repliées et les avait saignées jusqu'à la dernière. Elle tranchait d'un coup de dent près de l'oreille la carotide et pendant que coulait le sang chaud qu'elle suçait voluptueusement, elle maintenait sous ses griffes aiguës, comme celles d'un chat, la bestiole stupide qu'elle abandonnait tiède, vidée, flasque, dans les derniers sursauts de l'agonie. Comme l'ivrogne, dédaignant la chair après la beuverie sanglante, ivre folle de joie, le jabot maculé, la robe poisseuse, le corps gonflé, elle était retournée à son bois, insoucieuse des empreintes dénonciatrices de ses pattes. Que s'était-il passé dans le laps de temps, court pourtant, durant lequel elle avait cuvé le sang de sa ripaille.
Merci.
Oui.
Est-ce que c'est, tu pourrais, s'il te plaît, nous faire une petite explication de texte?
Qu'est-ce que tu veux que j'explique?
Mais je m'en doutais.
C'est assez clair, c'est l'histoire de Fuseline, la fouine. C'est écrit du point de vue presque de la fouine, quoi.
Le deuxième sens, je veux dire, il y a le premier niveau et après il y a le deuxième niveau.
Ah bon, c'est quoi pour toi le deuxième niveau?
Mais je te pose la question parce que... Une critique de la société, un message.
Ah ben non, faut pas toujours chercher des messages dans ce qui est écrit. Donc, voilà, je crois pas que Pergaud ait cherché à te décrire une société où les uns suçaient le sang des autres.
Ouais.
Parce qu'il y a d'autres histoires où c'est autre chose. Quoi. Ce sont des histoires de la nature, la vie de la nature telle qu'elle est, pas la vie de la nature embellie.
C'était un naturaliste de la nouvelle.
Voilà, c'est un naturaliste.
Ah ouais.
On appelle ça un romancier naturaliste et réaliste.
Ah ben dis-moi, je suis bien tombé.
Ah, t'es bien tombé, tu vois.
Voilà, pour une fois. Et d'accord, et tu peux nous en lire un autre, s'il te plaît?
Oui.
Ou je peux peut-être m'y essayer.
Si tu veux. Il y en a que j'aime bien.
Ah ben vas-y.
Je vais t'en laisser lire une autre, mais il y en a que...
Tu te gardes celui que tu aimes bien pour toi.
Oui, je vais te lire de suite si je le trouve. Voilà. Je vais te lire l'histoire de Rama la grenouille.
Je vois que tu as abandonné les post-it.
Oui, je me suis professionnalisé.
Oui. Pour papier craft.
Bon, je commence alors. C'est l'histoire de Rama la grenouille. Rana la grenouille.
Et le titre?
Et le titre, c'est l'évasion de la mort. La mare stagnée, écrasée sous le soleil d'un midi de juin. Un voile transparent de vapeurs impalpables qu'au bout faufilé au grand roseau de la rive, encouvré de sa gaze ténue, le miroir étincelant. les grandes feuilles larges des plantes aquatiques, les agglomérats d'algues d'eau douce, les câbles entortillés et verdâtres de vacheries cibulées des trous d'usure que les saisons auraient faites dans son teint flamboyant. Son teint que rénovait et changeait au fil des jours et au cours des nuits la touche vigoureuse des coups de soleil ou la caresse laiteuse des rayons de lune. Les sols qu'il abordait au couchant serraient leur ombre sur leur fût, comme des femmes qui ramassent leur jupe autour de leurs jambes pour se protéger des flaques de chaleur et des éclaboussures de soleil. Des bulles légères de gaz, comme des défauts passagers, venaient de temps à autre crever en soupir sa respiration pénible, en suivant, telles des trachées pulmonaires, les grosses tiges des nénuphars qui ourlaient le pourtour de leurs feuilles d'une dentelle fugace de rides, comme s'ils eussent tenté traîtreusement d'agrandir l'usure du miroir éternel dans ce coin de ciel. Mais presque aussitôt, tout retombait dans la lourde torpeur que n'agitait pas un fil de vent, que n'égayait pas un chant d'oiseau et que berçait seul, dans les prairies fauchées, la cantilène monotone des grillons. Le peuple vert des grenouilles avait presque suspendu dès l'aurore son concert. Seuls encore, dans le matin, quelques solistes enragés aux goîtres blancs, gonflant leurs membranes tymphaniques à fleur de peau, avaient lancé leur chant monotone de gros croix. Croix, croix.
Pedro,
oui.
Je peux t'emprunter ton bouquin?
Oui, tu veux lire?
Non, non, j'ai des questions de vocabulaire.
Et tu prends le dico chez toi et puis voilà, c'est l'intérêt.
Non, mais c'est pour tout le monde que je fais ça.
Mais ouais. Tu le feras pour tout le monde.
Vaucherie, les câbles entortillés et verdâtres de vaucherie.
Alors ça,
simuler des trous.
Des vaucheries, mais je ne sais pas ce que c'est.
Très bien.
Voilà. Des vaucheries, c'est un terme, je ne connais pas.
Bon, mais au moins c'est honnête comme réponse. Je préfère ça. Bon, après, il y en a d'autres, mais c'est pas très radiophonique de faire attendre nos amis, nos auditeurs et auditrices. Bon, on verra plus tard. Est-ce que c'est possible que je lise un texte plutôt court, parce qu'on est déjà à 12 minutes?
Ah, mais oui, mais je... bah, du coup, je sais pas l'urama. Alors là, il est là.
C'est pour toi.
C'est dommage, parce que l'histoire est très belle.
Non, mais vas-y, c'est pour toi, attends, c'est pas grave.
Rana avait déjà 5 ou 6 fois vu revenir la saison où le sang peu à peu s'engourdit comme sous la brûlure périodique de ce midi de plomb, et où une force mystérieuse la contraignait, avec toutes les commères à transit et muettes, à franchir le sombre forêt aquatique des algues vertes qui garnissaient le centre de leur domaine pour chercher dans la couche marneuse des profondeurs l'asile d'hiver. 5 ou 6 fois, elle avait vu sa mare envahie avec les pluies d'automne par les hordes grasses des grenouilles rousses aux tempes sombres, pèlerines pour de l'été, qui les délaissaient au printemps après la saison de l'amour pour courir les champs et les prés en quête de sauterelles et de vermisseaux. Sur la mare, le silence, comme à la veille d'une crise, bourdonnait plus lourd et plus haletant. Des signes imperceptibles semblaient transpirer des choses qui disait que la vie, lentement, par degrés, allait de nouveau tout ressaisir, tout entraîner dans son courant.
Merci.
De rien.
Il est bon ton café, Pedro.
Ah, je te remercie.
Bon. Tu m'en offres un ou...
Oui, tu veux...
Un cours?
Attends.
Je vais faire une petite page de pub pour l'instant.
Tu vois, je vais te lire ça. Tu vois, c'est sur l'histoire de Rana, mais tu vas pouvoir le lire la suite de Rana.
Si tu veux.
Hein? À partir de là.
Tiens.
L'échange standard.
Alors.
Mais une espèce de sifflement, c'est que c'est.
Et toi, tu t'étais arrêté où?
Mais j'avais fait. Je voulais pas lire tout Rana, j'avais fait des coupures pour te présenter le personnage.
Donc, ok. Rana.
Oui.
Mais une espèce de sifflement dans les jongles droit devant elle, la médusa subitement. Laissant par derrière, parmi les lentilles vertes tapissant la mare en cet endroit, un sinistre sillage, comme si l'eau même eût éprouvé une répulsion invincible à le combler. Une grande couleuvre, entre les portiques des roseaux, dressa sa tête plate, ses yeux fixes plongés en elle intensément. Alors, le malaise qui avait empêché la grenouille de suivre instinctivement le geste des compagnes s'enfla en un engourdissement stupide qui la paralysait sur l'eau. Les pattes de derrière allongées en rame immobile, la soutenant malgré elle de leurs nageoires écartées. La couleuvre la fixait de ses yeux ronds et fixes, sûre de sa proie qu'elle ne quittait pas. Son collier de couleur claire changeait du jaune pâle à l'orangé sous l'influence de l'émotion violente qui l'emplissait. Son dos et ses flancs verdâtres tranchaient à peine sur la couleur de la flore marécageuse, que son ventre d'un noir bleuâtre frôlait en dessous. La gueule était close encore. La bête semblait immobile, mais insensiblement sa queue appuyée sur les herbes poussait la tête, et la large gueule aux mâchoires libres, s'ouvrant lentement, projetait en avant la fine langue bifide frétillante. Rana ne percevait plus rien de la vie. Elle était séparée de son monde, retranchée de la société des compagnes, extériorisée de son marais qu'elle ne reconnaissait plus, tout entière sous l'emprise d'une volonté invincible qui la liait à elle et cassait ou plutôt rongeait tous les autres liens avec les choses et avec la vie. C'est quand on le lit, c'est autre chose.
Ah, c'est magnifique comme écriture. Ouais, c'est très beau. Ouais. C'est très très beau. Ça coule de source. Enfin, cette histoire-là, Rana, bon, t'as pas lu jusqu'au bout, mais elle se fait avaler par le. Elle est hypnotisée par la couleur qui l'avale. Alors, il te décrit les sensations de la grenouille qui glisse lentement dans la gueule de la couleur. Elle a juste les pattes qui sortent de la gueule de la couleur, elle se débat, elle réfléchit, elle peut réfléchir, enfin c'est tout ça, c'est une description, c'est vachement aussi cruel, mais c'est beau. Et puis la fin, c'est quand même inattendu, quoi. Parce que la fin, la couleur, au moment où elle va l'avaler, t'as un rapace qui vient.
On a dit qu'on ne racontait jamais la fin. Bon, vas-y, on va faire une exception.
Mais là, je voulais te dire la fin, parce que c'était tellement inattendu. T'as un rapace qui vient, qui chope la couleuvre, et qui, indirectement, libère Rana et qui se retrouve en vie, qui ne sait plus où elle est. Elle est toute gluante et tout. C'est magnifique. Donc, il y a des histoires vraiment, vraiment cruelles.
Il y a aussi un côté comique, alors.
Oui, là, c'est comique, mais tu as des histoires où ce n'est pas comique du tout. T'as une histoire où elle est obligée de se trancher la patte parce qu'elle est tombée dans un piège d'un chasseur. T'as l'histoire de la taupe qui est acculée au fond de son terrier et il balance une fouine, le chasseur, pour la faire. Enfin, t'as des histoires horribles, quoi, quand même. Mais ce sont des histoires véridiques.
Ok. Il a écrit quoi d'autre, ce monsieur, à part La Guerre des Boutons?
Le roman d'après, que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Vengeance du Corbeau, c'est encore une histoire d'animaux. Après, il a écrit, mais je crois que c'est son troisième roman, La Guerre des Boutons. Après, il a écrit un roman qui s'appelle, je cherche le titre, Les Rustiques. C'est une histoire dans un village, déjà rustique de l'époque, quoi, de la vie dans un village. Après, il a écrit un roman qui s'appelle Le Braque Bûcheron, qui est un roman inachevé. Il a réécrit Une Vie des Bêtes. Et après, ont été publiés ses carnets de guerre, parce que quand il est parti à la guerre, Perrault, comme tout le monde à cette époque-là, il s'était inventé à Vatanguerre. On va se faire les boches, patati patata. Et au fur et à mesure que la guerre se déroule, il s'aperçoit que c'est une boucherie, que c'est l'horreur et tout. Et ses lettres sont très intéressantes, les lettres qu'il écrit à sa femme. Mais il n'a pas beaucoup écrit, puisqu'il est mort très jeune. Il est mort en 1915. Ça lui fait 1915, il avait 37 ans, 37, il est en 82, il est né, donc ça fait 38, ça fait 28, 43 ans, quoi. Ouais. Donc même pas 18, 33 ans. 33 ans, il est mort. C'est un peu jeune, quoi. Il a pas eu le temps, il avait plein d'idées encore, il avait plein d'idées de romans, mais tournant toujours autour des bêtes. Il a aussi écrit un roman qui s'appelle Miro, chien de chasse, qui est très rigolo. C'est le chien qui se fait toutes les chiennes du village, tout le monde court après. Voilà. Ouais. C'est un spécialiste des bêtes.
Et à le lire, les phrases sont d'une longueur
Ouais,
impressionnante.
ouais, ouais.
Mais malgré ça, on pourrait ressentir de la lourdeur un petit peu, tu vois, trop de longueur, mais
Ah non,
c'est...
le vocabulaire est tellement riche
Ouais.
que c'est,
Je suis d'accord.
ça en est beau, c'est pas long à lire. On a envie de lire le mot qui vient après, tellement on est embarqué dans ce vocabulaire. C'est d'une richesse incroyable, quoi. C'est très très beau comme écriture.
Pedro, merci.
De rien.
Parce que de faire découvrir un auteur comme ça, moi je trouve ça intéressant.
Oui, j'espère que ça donnera envie à tes auditeurs de découvrir Louis Pergaud, auteur oublié, oublié, malheureusement oublié.
Allez, merci.
Merci à toi.
À bientôt.